105.5 FM. Imaginaire, c'est le rendez-vous incontournable pour les amoureux et amoureuses de la pop culture. Un mardi sur deux à 21h, on parle littérature populaire, mais aussi jeux, ciné, séries, avec des chroniques, des interviews, sans oublier les invités et l'actualité. Imaginaire, c'est un mardi sur deux à 21h sur Radio G 101.5.
Bonsoir, vous êtes à l'écoute d'Imaginaire sur le 101.5, on est ensemble jusqu'à 22h. Ce soir, Bess nous parlera de Sarah Connor, on aura une chronique du professeur Patrice sur les marées, et Julien reviendra sur 1984, le film cette fois. On va aussi pas mal voyager en musique dans cette émission, et on commence tout de suite en douceur avec un petit peu d'exotica. Donc l'exotica, c'était cette musique musac, peut-être diront les mauvaises langues, d'inspiration polynésienne ou sud-américaine, assez légère, qui apportait un petit peu d'exotisme dans les pavillons américains à la fin des années 50, début des années 60. Mais certains pratiquent encore ce genre de musique actuellement, notamment Cavacon, dont on s'écoute le morceau Behind the Sun, extrait de leur album Tiki for the Atomic Age, paru en 2009 sur le label Dionysus. Thank you.
away from her, you bitch!
I know my value. Anyone else's opinion doesn't really matter.
Mary Poppins, practically perfect in every way.
Spoilers.
Bonsoir. Cette chronique s'intitule « De l'ineffable propension de passer de l'état de victime spatio-temporelle à mère badass maniant le shotgun » ou « Sarah Connor, non c'est à côté !» Ah, la petite Sarah Connor, personnage emblématique de la duologie Terminator. Oui, duologie, on va dire que les autres épisodes de la saga initiée par James Cameron ne comptent pas. Donc notre chère Sarah, que vous connaissez toutes et tous, sera l'héroïne que je vais vous présenter dans cette émission. Et croyez-moi qu'en deux films, le personnage suit une trajectoire assez intéressante. Voici donc Sarah Connor, troisième à ce nom dans l'annuaire. Elle vit sa vie de serveuse, à se faire engueuler par les clients du resto, à vivre en coloc avec sa super pote Ginger et à posséder un iguane du nom de Pugsley. Elle va travailler sur son petit scooter tous les jours, enfile son uniforme et roulait jeunesse. Mais un jour, sa vie est chamboulée par l'arrivée d'un robot tueur du futur, un Terminator, afin qu'elle ne mette pas au monde John, qui deviendra le chef de la rébellion contre les machines dans un futur post-apocalyptique. Oui, rien que ça. Et quand le robot tueur en question prend les traits de Schwarzenegger, ça peut faire un peu peur. Et notre Sarah, on peut pas dire qu'elle ait tous les atouts pour faire face à cette menace. Si ce n'est Riz, habitant du futur venu à sa rescousse. Sarah, c'est la damsel in distress qui va passer son film à fuir. Elle n'est pas vraiment sûre d'elle, elle flippe, elle a un mulet géant en guise de coupe de cheveux, merci les années 80, elle n'est pas hyper maligne dans toutes ses décisions. Mais comprenez que l'enjeu qui pèse sur elle est énorme, car dans le futur, les ordinateurs et les machines ont pris le contrôle de la Terre après une bonne guerre nucléaire. À leur tête, Skynet, sorte d'intelligence artificielle qui a décidé d'éradiquer la race humaine. Si celle-ci s'en sort à peu près et a espoir de s'en sortir, c'est parce que John Connor, le fils de Sarah, a pris les rênes de la rébellion. Autrement dit, Sarah doit non seulement vivre, mais aussi donner naissance à John. Cette pression sur elle, elle va finir par l'accepter et même l'embrasser. Puisqu'après ses premières aventures, elle finit en jeep en Nicaragua, avec un chien et un flingue à ses côtés, plus un gros bidon tout rond. Elle apprendra à John tout ce qu'elle sait, et notamment le rôle qu'il aura à jouer dans le futur. Elle va l'éduquer comme un futur seigneur de guerre, jusqu'à se faire prendre par les flics après avoir voulu faire sauter une usine d'ordinateurs. Avec son discours sur Skynet et les Terminators, Sarah finira en asile haute sécurité. C'est là qu'on la retrouve au début de Terminator 2. Finie la coupe mulet, elle arbore maintenant les cheveux longs attachés et surtout un physique athlétique de maboule. Ah ça, elle est allée à la salle la petite, hein. Et ce changement physique s'accompagne d'un changement de mental. Elle est capable de faire preuve d'un grand self-control comme d'une grande agressivité. Et oui, personne ne croit à ces histoires et ça la fait sortir de ses gonds. Elle est plutôt déterre à s'enfuir de l'hôpital psy et n'hésite pas à être violente avec son médecin. Finie la petite serveuse un peu pataude. Il faut dire que Sarah sait ce qui attend l'humanité. Comme elle le répète, pour elle, tout le monde est déjà mort. Elle n'hésite donc pas à foutre des coups, prendre en otage ou même mettre en joue ceux qu'elle croise sur son chemin. Elle est devenue une véritable guerrière. Et heureusement, car dans ce deuxième opus, Skynet renvoie un Terminator pour tuer John Connor alors qu'il n'a qu'une dizaine d'années. John Connor qui a eu le goût de s'envoyer également un protecteur dans le passé. C'est avec lui que Sarah va faire alliance pour protéger son fils. Si elle doit encore fuir devant un Terminator ô combien plus performant, elle ne sublie plus vraiment les événements. Elle connaît son ennemi, s'est fait des alliés, a pris la mesure de l'enjeu. Elle, maintenant, elle veut agir. Elle va par exemple suggérer de tuer l'inventeur du futur Skynet. Et même plus que suggérer, hein, elle va être à deux doigts de le faire. Mais Sarah Connor n'est pas une tueuse de sang-froid comme un Terminator. Elle reste profondément humaine et c'est ce qui l'empêchera de tuer. Et avec l'aide de cet inventeur, la petite troupe décide plutôt de faire sauter le labo où sont basées toutes les recherches, ou comment changer le futur sans perte humaine. À la fin du premier film, comme du second, Sarah Connor se retrouve face à face avec le Terminator. Dans le premier, elle s'en sort de justesse, bien que complètement terrifiée. Dans le second, et voyez son évolution, elle est blessée mais pas apeurée et lui tire au shotgun dans la gueule. De petite serveuse à maman badass, il lui a fallu quelques petites années. Si Sarah Connor est iconique dans la pop culture, c'est qu'elle est un personnage central dans une histoire culte. Le parti pris est intéressant. Avant d'ailleurs de s'intéresser à un futur héros de l'humanité, on va mettre en lumière sa mère à qui on donne toute sa valeur. Sans elle, il n'existerait pas. Avant même d'être mère, elle se doit donc de protéger son futur enfant, dont elle ne connaît même pas encore le père. Puis, quand elle est enfin maman, elle doit de nouveau protéger sa progéniture. Et Sarah va comprendre et accepter cette pression de maternité qui pèse sur elle.
Elle est une maman assez spéciale, loin des clichés de films d'action. Elle est aussi une héroïne badass qui n'est pas objectifiée ni sexualisée et qui reste malgré tout humaine. Enfin, Sarah Connor est une héroïne qui évolue, dont l'histoire n'est pas linéaire. C'est un personnage qui a eu droit à un peu plus d'un post-it pour son écriture. Et c'est sûrement pour toutes ces raisons que Sarah Connor, elle pèse dans le game. Comme elle est une survivor de première catégorie, on écoute les Destiny's Child pour lui rendre hommage.
Eh bien oui. Aujourd'hui, je vais vous parler des marées. Les marées, pour un Français qui habite sur les bords de l'océan Atlantique, c'est un truc tout naturel.
Oh, la mer monte, géante, géante.
Soyons sérieux. Savez-vous que nous avons de la chance en France, la chance d'avoir quelque chose qui nous a donné envie d'étudier les marées. Des marées océaniques d'une amplitude de plusieurs mètres deux fois par jour, ce qui n'est pas le cas partout sur Terre. Il y a des endroits où il n'y a qu'une marée par jour et d'autres où l'amplitude est suffisamment faible pour qu'on ne s'en préoccupe pas vraiment, la Méditerranée chez nous par exemple. D'ailleurs, il aurait suffi que le rapport entre la largeur de l'océan Atlantique et sa profondeur soit légèrement différent pour que l'effet de résonance qui augmente l'amplitude des marées océaniques n'existe pas, et pour que notre curiosité ne s'éveille pas, ou pas autant, ou pas tout de suite. Bref, comme d'habitude, je ne rentrerai pas ici dans les détails du calcul complexe des marées en différents endroits de la Terre, mais je vais plutôt tenter d'éveiller votre curiosité sur ce qu'est un effet de marée. Qu'est-ce qui produit cet effet ? Ah, prof Patrice, tu ne vas pas nous la faire. Tout le monde sait que c'est la Lune qui provoque les marées. Très bien, cher et sagace auditeur de Radio G sur 101.5. Mais alors, dis-moi pourquoi l'effet de marée dû au Soleil, étoile dont on peut nier que l'attraction soit plus forte que celle de la Lune, pourquoi cet effet de marée est-il plus faible que celui de la Lune ? Donc on se calme, même ceux du fond, et on reprend. Qu'est-ce qu'un effet de marée ? Je vous ai plusieurs fois parlé de la gravitation. Tant qu'on ne parle pas des trous noirs, je le ferai sans doute tout à l'heure, mais tant qu'on ne parle pas des trous noirs, l'approche newtonienne est largement suffisante. La force d'attraction entre deux corps dépend de la masse des corps, mais aussi de leur distance. Quand vous êtes debout sur Terre, votre tête, qui est un peu plus loin du centre de la Terre, subit une attraction moins forte que vos pieds. Pas beaucoup, mais quand même. Vos pieds étant un peu plus attirés vers le centre que votre tête, vous avez une petite une infime tendance à vous allonger. Cette variation d'attraction est inversement proportionnelle au carré de la distance du centre de masse. En d'autres termes, quand vous êtes très proche d'un truc qui vous attire, la différence d'attraction entre vos pieds et votre tête est forte. Quand vous en êtes loin, ça devient minime. Les marées ! Donc, puisque vous insistez pour qu'on parle de la Lune, parlons-en. Vous vous rendez bien compte que le côté de la Terre face à la Lune subit une attraction plus forte que celui qui se trouve à l'opposé, à 12 700 km. La masse liquide des mers va s'étirer, s'ovaliser, si on considère que la Terre ainsi que la masse d'eau des océans est une sphère, je ne rentre pas dans les détails. Les niveaux de l'eau se trouvant face à la Lune et à l'opposé seront donc plus élevés qu'aux endroits situés à 90 degrés. Comme la Terre tourne sur elle-même, un endroit se trouve être environ deux fois par jour avec un niveau d'eau plus élevé. Une fois face à la Lune et une fois à l'opposé, suivez un peu. Ce qui crée les marées hautes et les marées basses. Évidemment, c'est loin d'être aussi simple en raison des reliefs, des profondeurs, de la forme des côtes et j'en passe. Si la Terre était une sphère recouverte d'eau, ce serait simple. Si ce n'est pas le cas, et bien ce n'est d'ailleurs pas le cas, on a donc des formes de marées très différentes en fonction du point où on se trouve. Quant au Soleil, même si son attraction est plus forte en valeur absolue, sa variation d'attraction entre deux points opposés de la Terre est plus faible car il est plus loin. Rappelez-vous, carré de la distance. Son influence se rajoute à celle de la Lune, mais n'est pas prépondérante. Cependant, quand les deux effets se conjuguent, quand le Soleil est à peu près aligné avec la Lune, ce qui se produit à la pleine Lune et à la nouvelle Lune, bien sûr. Donc, quand les deux effets se conjuguent, le coefficient de marée est plus fort. Si vous rajoutez à cela les périodes où le Soleil est pile-poil dans le plan de l'écliptique, les solstices de printemps et d'automne, vous obtenez des marées encore plus fortes, des grandes marées quoi. Ne vous baladez pas dans la baie du Mont-Saint-Michel au moment d'une pleine lune lors du printemps. Mais non, pas à cause des loups-garous, parce que vous comprendrez pourquoi on dit que la mer monte à la vitesse d'un cheval au galop. À présent, si vous avez bien suivi, vous n'aurez aucune peine à comprendre qu'il existe aussi des marées terrestres. La terre ferme se déforme plus difficilement que la mer, mais elle se déforme. En France, l'amplitude est d'environ 80 cm. Et les rigoleurs auraient tort de prendre ça à la légère. La différence de pesanteur quand vous vous éloignez de 80 cm du centre de la Terre est insensible pour votre corps. En revanche, si vous êtes en train d'effectuer une expérience de précision sur des particules, au CERN par exemple, Je vous laisse y réfléchir. Ces effets de marée se retrouvent partout et peuvent expliquer des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Les satellites des planètes qui se sont formés par agrégation de poussière ne peuvent justement pas s'agréger s'ils sont trop proches de la planète. Ça attire trop le nuage de poussière et la gravité ne peut prendre le dessus. Rappelez-vous également la comète qui s'est écrasée sur Jupiter il y a quelques années, fractionnée en une dizaine de morceaux par ces fameux effets de marée. Pour terminer, une petite digression en direction des trous noirs. Ah, je vous avais prévenu. Deux exemples de ce qui peut se produire quand vous vous approchez de l'horizon des événements. Vous savez, cette zone noire d'où rien ne peut sortir, même pas la lumière. Si le trou noir n'est pas très gros, vous serez relativement proche du centre de masse et les effets de marée sont immenses. La différence d'attraction entre votre tête et vos pieds est telle que vous seriez haché menu comme chair à pâté, comme dirait le Chaboté. En revanche, s'il s'agit d'un énorme trou noir, vous êtes suffisamment loin du centre de masse pour que les effets de marée soient négligeables. Vous passerez l'horizon des événements sans même vous en rendre compte. Mais, pas question de faire demi-tour. Quand on est dans un trou noir, on y reste. Vous m'excuserez de ne pas vous y suivre. À la prochaine fois.
Tout près du Cap Grillé, quand j'ai fini de pêcher, on se retrouve chez Léon, son Léon. On mesure les poissons en vidant des canons et on passe vite le cap car ça tape.
Bientôt plus de cap griné, encore moins de cap blanné. Ce qu'on voit c'est nos nez, tout rouge et quand les verres que je lève hausse le sel sur mes lèvres, moi je pense à Marie qui est partie.
Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Quand elle descend, je l'attends. La marée basse, elle est partie, hélas. À marée haute, avec un autre.
Lors le nez dégrisé, je quitte l'estaminet et je regarde en rêvant le rideau. D'autre côté de la mer, les collines d'Angleterre montrent que le monde ici est tout petit. Et à gorge déployée, sur le flot déchaîné, je l'appelle à grand cri, reviens Marie. Peut-être qu'à la molliment, pour pêcher quel bon temps, mon filet la remettra dans mes bras.
De l'adaptation cinématographique de 1984 de Michael Radford avec John Hurt et Richard Burton. Petit extrait.
The question: how does one man assert power over another? By making him suffer. Exactly. Obedience is not enough. Power is inflicting pain. Humiliation, otherwise you cannot be sure. Power is tearing human minds apart and putting them together again in new shapes of your own choosing. Power is not a means, it is an end. In our world, there will only be triumph and self-abasement. Everything else we shall destroy. The past is forbidden. Why? Because when we can cut man from his own thoughts, then we can cut him from his family, his children, other men. There is no loyalty except loyalty to the party. There is no love except love of Big Brother. All competing pleasures we will destroy. If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever.
Une question. Comment un homme asservit-il son pouvoir sur un autre? En le faisant souffrir. Exactement. L'obéissance ne suffit pas. Le pouvoir est d'infliger des peines et des humiliations. Sinon, comment en être certain? Le pouvoir est de déchirer l'esprit humain en morceaux, puis de les rassembler en de nouvelles formes que l'on a choisies. Le pouvoir n'est pas un moyen, c'est une fin. Dans notre monde, il ne peut exister que triomphe et humilité. Toutes les autres choses, nous devons les détruire. Le passé est interdit. Pourquoi? Car lorsque nous pouvons séparer l'homme de son propre passé, nous pouvons alors le séparer de sa famille, ses enfants, des autres hommes. Il n'existe pas de loyauté, excepté la loyauté pour le parti. Il n'existe pas d'amour, excepté pour le parti. Tous les plaisirs rivaux, nous les détruirons. Si vous voulez une vision du futur, imaginez une botte piétinant à jamais la face humaine. Michael Redgrave, dans l'adaptation du roman de George Orwell par le réalisateur britannique Michael Anderson. Michael Anderson, que vous devez connaître pour Piège de cristal avec Bruce Willis en flic qui doit sauver sa femme. Ce qui est intéressant quand on compare ces deux adaptations à 30 ans d'intervalle, c'est l'importance donnée au rôle du général O'Connor, le bourreau de Winston Smith, et notamment par le choix des acteurs qui l'incarnent. 1956, Michael Redgrave. 1984, Richard Burton. Ah oui, je ne vous l'avais pas dit, mais le film 1984 de Michael Radford a été tourné en 1984. On imagine que ça a été un petit peu fait exprès. Alors, pour la trame du roman, je vous invite et incite à réécouter en podcast la chronique brillante que j'en avais fait ici même sur les ondes de Radio G dans cette excellente émission qu'anime avec brio l'équipe d'Imaginaire. Mais attardons-nous quelque peu sur les partis pris du film. L'ambiance nous replonge dans une Angleterre post-Seconde Guerre mondiale. L'image paraît vieillotte, granuleuse, avec son noir et blanc qui semble nous imposer que le présent est dans un passé. Et là, on touche à quelque chose de très intéressant, la quintessence de la pensée. Surtout que le film commence par deux cartons particulièrement explicites. Qui contrôle le passé contrôle le présent, et qui contrôle le présent contrôle le futur. En nous assénant à présent des calques visuelles parfaites du passé, le réalisateur contrôle notre futur, ou de moins celui de ces personnages qui se retrouvent dans une salle de cinéma à érupter leur haine contre un ennemi commun créé de toutes pièces. Y compris donc Winston Smith, qui a un nom des plus banals pour un rôle qui est amené à ne pas l'être. Car ce Winston Smith réfléchit à ce qu'est son travail est quotidiennement amené à remettre en doute la parole du parti, puisqu'il est chargé de réécrire ce passé pour qu'il exalte la gloire de Big Brother, avec une insistance particulière sur le chocolat. Je ne sais pas si vous suivez, mais si vous ne suivez pas, le livre ou le film vous expliqueront tout ça un petit peu mieux que moi. Winston Smith, c'est John Hurt, vu dans Midnight Express et La Route du Paradis, Elephant Man. Mais vous le connaissez peut-être malheureusement plus pour être Monsieur Ollivander dans les Harry Potter. Que dire de sa prestation si ce n'est qu'elle est impeccable, lui avec un visage qui exprime doute et crainte perpétuelle. On comprend ce qui peut attirer Julia, le personnage incarné par Susanna Hamilton, actrice anglaise à la carrière injustement limitée, grosso modo à deux films, 1984 et Out of Africa. Julia, c'est celle qui drague Smith et qui devient sa maîtresse dans un monde où la chose pour le plaisir est proscrite en dehors des quartiers prolétaires, vu que le prolétaire est un citoyen de troisième zone rabaissé au statut d'animal. C'est donc elle qui l'emmène en forêt dans un monde verdoyant, donc coloré. C'est elle qui lui fait découvrir des saveurs oubliées et pas que corporelles. C'est elle qui va trahir alors que la réciproque ne sera pas vraie au moment où ils seront tous les deux interrogés par le contre-espionnage. L'histoire retiendra que le film donne son dernier rôle à Richard Burton puisque l'acteur décédera pendant la promotion du dit film. Elle retiendra également que la production a imposé Eurythmics pour la BO alors que Michael Radford aurait préféré Muldoney. Relisez le roman, il est toujours et encore plus d'une actualité criante. Revoyez ce film qui est un condensé plutôt fidèle de l'ouvrage et surtout, essayez de garder l'esprit ouvert mais critique. On en a bien besoin. On se quitte avec Sex Crime de Eurythmics, présent dans l'album 1984, For the Love of the Brother. Une chanson absente du film, utilisé pour sa profession. Allez.
Always somebody
enfants de l'époque découvriront sur Canal+ d'abord et puis ensuite dans Recréa 2 un personnage ultra charismatique dessiné par des Japonais mais avec la tête de notre bébelle nationale. Cobra, donc, cet ancien pirate de l'espace qui a changé de physique et qui en profite maintenant pour se promener aux quatre coins de la galaxie tranquillou pour aller y secourir des petites minettes en détresse. Cobra est un personnage tiré d'un manga d'abord, un manga qui sera disponible en France beaucoup plus tard que le dessin animé. Et il a aussi été adapté en jeu de rôle en 2013 aux éditions Pulp Fever. L'édition Pulp Fever qui avait aussi sorti à la même époque Luchadores, le jeu de rôle de l'angevin Julien Elbrock qui permet d'incarner des catcheurs mexicains super-héros. Le jeu de rôle papier Cobra donc est aujourd'hui épuisé. Il a vu droit aussi à un supplément Rockball. Alors le Rockball, c'est...
Tu sais que le Rockball est un mélange de football américain et de baseball. À la base, ça commence comme une partie de baseball. Mais une fois la balle lancée, les joueurs sont libres de se faire pratiquement n'importe quoi. C'est un jeu tellement violent qu'il y a beaucoup de morts. Mais justement, à cause de ce risque, il est terriblement populaire en ce moment.
C'est très gentil tout ça, mais ça ne m'intéresse vraiment pas.
Mais si tu participes à la rencontre, la police de l'espace prend l'engagement d'effacer tous les crimes contre proches.
Non, merci beaucoup, mais franchement, je n'aime pas ce type de marché.
Je savais parfaitement que ce genre de proposition ne te plairait pas. Mais en plus de ça, tu recevras 2 millions. Je suppose que maintenant, tu es prêt à accepter ?
Ce n'est pas que j'en meurs d'envie, mais ça me fera un petit peu d'exercice.
Je vais te montrer les images d'une rencontre prise sur le grand stade de la planète Ralou. C'est une planète où l'on trouve le plus grand nombre de pratiquants du rockball. Et pour eux, c'est parfaitement normal qu'il y ait des blessés et même des morts. L'équipe des Saxons Rouges, qui est la meilleure de toutes, est probablement subventionnée par l'argent des pirates de l'espace. Alors, tu vas te joindre à leur équipe et tu tâcheras de découvrir leurs petits secrets.
Armanoïde, j'ai oublié mes cachets sur la dernière planète où on s'était arrêté. Vite, on y retourne.
Accrochez-vous, on part pour la planète Ralou.
Pour se mettre en route vers la planète Ralou, le supplément Rockball, donc, qui a été édité pour le jeu de rôle Cobra en 2015, et n'était disponible qu'en financement participatif. Il y a eu très peu d'exemplaires de sortie. Il est aujourd'hui complètement introuvable. Mais bonne nouvelle, Laurent Rambourg, donc, qui était à l'initiative de son édition, a une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Le Troisième Œil, et il a promis qu'il était en train de travailler sur une nouvelle version de Cobra. Et notamment de suppléments Rockball. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que donc sur le site de Leto, letogames.com, dans le cadre du confinement, il y a pas mal de jeux de rôle qui ont été mis à disposition gratuite de la communauté. Et on retrouve Cobra, donc le livre de base qui était sorti à l'époque, un beau bouquin composé à 100% d'illustrations de Buichi Terazawa, avec tout d'abord une centaine de pages sur l'univers zéro. Une partie pour créer son personnage, donc on peut retrouver des jobs ou des espèces extraterrestres rencontrées tout au long des aventures de Cobra. Une cinquantaine de pages de règles assez simples et assez rigolotes, par exemple comme les effets de style qui peuvent vous permettre de récupérer de la fatigue. Par exemple, lorgner ou aborder une jolie fille, boire un verre de tartare rousse, ronfler très fort en dormant, exécuter un jeu de jambes exagéré en esquivant des tirs histoire d'énerver encore plus l'adversaire, ou sauter par-dessus la portière d'une voiture décapotable au lieu de l'ouvrir. Ensuite viennent une centaine de pages de scénarios qui vous feront voyager aux quatre coins de l'univers zéro. Et à toute fin du bouquin, on retrouve l'affiche de Cobra. Donc ça, c'est un peu le seul regret du jeu. C'est qu'il est quand même déconseillé de jouer Cobra, disant qu'il est tellement beaucoup plus balèze que les autres que ce serait un petit peu déséquilibré. Donc s'il y a un jeu de rôle à télécharger en ce moment, c'est donc la version 1 de Cobra sur le site letogames.com de la rubrique téléchargement. Et on va s'écouter maintenant un extrait de la bande originale du dessin animé par Kentaro Haneda.
Thank you.
ce sera tout pour cette 143e émission Imaginaire sur Radio G. On se retrouve dans deux semaines sur le 101.5 et on termine par une chasse aux fantômes, Ghost Trail de Cult of Luna. C'était sur leur album Eternal Kingdom en 2008. Bye bye. We'll be right back.
88.5.